Bienvenue à tous. Donc, nous allons démarrer cette table ronde sur le thème de la tradition orale à la littérature « Salut les vampires ». Alors, tout d'abord, je dois vous présenter les excuses de deux auteurs qui étaient prévus sur cette table ronde, mais qui ne pourront pas y être. D'une part, Morgane Cossarieux, qui était pas bien et qui a dû repartir et qui ne pourra donc pas assister. Et Eric Witzel, dont le train part à 16h, non, à 15h, pardon. Et donc, techniquement, il n'était pas possible de terminer la table ronde à 15h et d'être en même temps à la gare. Donc, il s'excuse, mais évidemment, il a dû partir. Donc, voilà, c'est les petits cafouillages de planning qui arrivent tous les ans. Hein. Bon, sur un événement de la taille des Imaginales, pour arriver à tout caler, c'est pas toujours simple. Mais bon, nous avons l'immense plaisir d'accueillir auprès de nous Jean Marigny, qui donc a été professeur émérite de l'université Stendhal à Grenoble. Donc il a enseigné la littérature anglaise et américaine et surtout qui est spécialiste du mythe du vampire. Il a fondé le GERF, le groupe d'études et de recherche sur le fantastique. Il est membre de la branche canadienne de la Transylvanian Society of Dracula, hein, donc la société transylvanienne de Dracula. Et évidemment, il a écrit de très nombreux ouvrages de fond sur le thème du vampire avec des bibliographies extrêmement détaillées. Donc il va un petit peu nous expliquer tout ça. Et à ma droite, Fabien Clavel, donc auteur bien connu français de fantasy et de science-fiction. Il a abordé beaucoup de choses dans sa carrière littéraire, la fantasy urbaine, parodique, mythologique, arthurienne ou historique, mais également il a abordé d'autres genres comme l'Uchronie, le space opéra et aussi le fantastique, l'ASF post-apocalyptique, la beat-lit, le thriller, enfin voilà. Et évidemment, il a notamment parlé de vampires dans son œuvre. Donc on va commencer par poser une question à Fabien. Donc évidemment, ce qui intéresse dans l'œuvre, c'est la série du miroir au vampire, puisqu'on est sur le thème du vampire. Donc dans cette série, on est dans le contexte d'un internat avec des adolescents. Quelle est la vision donnée du vampire dans ce contexte-là?
Alors déjà, la première idée, effectivement, pour le miroir au vampire, c'était vraiment de faire de la beat-lit, c'est-à-dire de reprendre les codes du genre. Donc par exemple, d'avoir des jeunes filles fortes, douées de pouvoir, que ça se passe dans un milieu plutôt adolescent, donc un lycée. Voilà, à peu près, que ce soit centré, soit en général raconté à la première personne. Hein, tout ça, ça fait partie des caractéristiques qu'on retrouve très souvent. Donc, je suis parti de ces caractéristiques très classiques. Et ensuite, j'ai essayé de trouver une approche un peu originale. Et je me suis aperçu que parmi les éléments donc, de la mythologie vampirique qui reviennent très régulièrement, donc par exemple le sang, hein, qui font partie des caractéristiques principales, le thème du miroir était peu utilisé. On dit que souvent ils se réfléchissent pas dans les miroirs, mais voilà, sans trouver tellement d'explications, sans que ça intervienne dans la narration ou seulement pour des rebondissements, on se retourne, ah il est là, etc. Mais en général, ça va pas tellement plus loin. Donc moi, j'ai décidé de construire toute ma mythologie vampirique pour cette série autour vraiment du miroir. Et d'en faire, ça c'est classique aussi, hein, un lieu de passage entre plusieurs dimensions. Et je me suis amusé en fait à raconter donc que les vampires avaient été éjectés de notre dimension. Et en gros, ils sont éjectés de notre dimension à peu près au moment où la forme moderne du vampire, telle que nous on la connaît plutôt, prend forme. Et donc en fait il commence à exister pour nous sous sa forme au moment où il disparaît, ce qui fait que ça me permettait de montrer des vampires un petit peu différents quand ils reviennent. Et donc le roman commence au moment où les vampires reviennent, retraversent. Et comme beaucoup de systèmes totalitaires commencent en embrigadant la jeunesse, le meilleur moyen de revenir c'était dans un lycée pour embrigader tout le monde. Pour faire ça discrètement et puis pour tester un petit peu leur technique de un peu de séduction. Et donc voilà, donc ils arrivent dans un lycée et j'avais une cohérence avec tout ça. Et l'autre élément de construction du vampire, c'était que quand on remonte, et d'ailleurs pour ce roman vraiment je me suis servi de l'ouvrage de Jean Marigny, Ça a été ma première rencontre avec lui, en fait, à travers les livres. Et d'ailleurs, il apparaît dans le roman, puisque l'héroïne qui est confrontée à des vampires se dit « Bon, bah, je vais chercher des bouquins sur les vampires. » Et elle tombe sur l'ouvrage d'un certain Jean Marigny, professeur d'université, en se disant « Oh tiens, il y a des profs d'université qui s'en occupent. » Et voilà, donc ça a été ma première rencontre. Et la fois où, justement, après avoir sorti le livre, on s'est retrouvés dans une même table ronde, j'ai pu lui dire que c'était... grâce à lui que le livre existait en grande partie, et aussi qu'il faisait une apparition en guest star dans les lectures de mon héroïne. Oui, donc l'autre élément, justement, donc en lisant le livre de Jean Marigny, ça m'a permis de voir que, d'une certaine manière, les premières formes de créatures vampiriques, elles peuvent remonter en gros jusqu'à Lilith, où ce sont plutôt des créatures de on retrouve ça chez Lamia aussi après, hein, c'est plutôt des créatures stériles, des femmes stériles qui vont dévorer les enfants des autres. C'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois. Et moi, j'ai gardé le côté un peu Lilith, c'est-à-dire vraiment remonter aux origines de l'humanité. Mais comme Lilith après devient une forme d'allié du diable, j'ai mélangé ça avec le côté serpent. Et donc, toutes les caractéristiques des vampires que j'ai inventées là-dedans ont des caractéristiques propres à certaines catégories de serpents, avec certains qui vont avoir les... Alors, je sais plus, c'est les solénoglyphes, parce que j'avais appris les noms, ceux qui ont les dents rétractiles, ceux qui... alors, ils vont muer, etc. Il y en a qui vont avoir des clochettes, là, comment ça s'appelle, des sonnettes, voilà, des serpents à sonnettes. Et tout un tas de choses comme ça qui me permettaient d'avoir différentes catégories, ou des constricteurs, hein, comme les boas, donc c'est les plus costauds, ils sont très méchants ceux-là, et puis ils écrabouillent en vous tenant contre eux. Voilà, et donc ça me permettait d'avoir quelque chose d'un petit peu différent, et de moi de m'amuser avec ces différentes créatures.
Alors, est-ce que le fait d'écrire donc de la bitlite, est-ce qu'il y a un petit peu, dans la vision du vampire, quelques codes imposés par le genre? Parce que souvent, d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas à travers mes lectures, le vampire de la bitlite, il est plutôt... c'est pas le gros vampire bien méchant du 19e siècle. Enfin, même s'il est méchant, il est civilisé d'une certaine façon, et il est un peu apprivoisé, on le craint moins. Donc, est-ce qu'il a fallu respecter certains codes en les écrivant?
Le code que j'avais envie de respecter, c'est que le vampire soit sexy, parce que ça fait partie un peu de ses caractéristiques. Il est attirant, il est séduisant, mais je voulais des vampires qui soient vraiment méchants. C'est-à-dire, c'est des vampires en gros nazis. Je les ai vraiment construits autour d'une certaine idéologie nazie, de la race, des sous-races, etc. Donc ils sont quand même très très méchants, hein. Et d'une fascination pour l'image. Et donc dans les techniques d'embrigadement qu'ils vont utiliser, ils vont utiliser justement ces techniques d'organisation totalitaire. Je me suis inspiré pas mal de l'expérience qui a été retranscrite dans le roman puis le film La Vague, où voilà, ils essayent de donner une identité à un groupe à travers justement une exclusion des autres, des signes de reconnaissance, etc. Et donc les vampires s'installent dans cet établissement de cette manière. Du coup, on a des codes qui sont là au départ, donc un vampire sexy, etc., mais qui, j'espère, sont subvertis petit à petit en cours d'histoire.
D'accord. Alors, je me tourne vers Jean Marigny. Jean Marigny, dans une interview, enfin, j'ai lu dans quelque chose, vous avez été interrogé, et vous avez dit que vous considérez que le vampire est un être paradoxal. Pourquoi ?
C'est un être éminemment paradoxal, puisqu'il est à la fois mort et vivant. Hein. C'est peut-être l'ultime paradoxe. Et puis, c'est un être qui est à la fois, enfin, tout au moins le vampire de la littérature, un peu plus que le vampire de la légende. Le vampire, c'est un personnage qui à la fois fait peur et qui séduit d'une autre façon. Donc, il est constamment sur un paradoxe, parce que c'est une sorte de don juan ou de femme fatale quand c'est une femme. Et puis, il est porteur de mort. Hein, donc, cette séduction est mortifère. Et donc, sur ce plan-là, il y a un paradoxe absolu.
D'accord. Alors, évidemment, dans votre dernier ouvrage extrêmement précieux, Vampire de la légende au mythe moderne, donc là, vous voyez un petit peu un certain nombre d'évolutions, et comme le thème de cette table ronde, c'est de la tradition orale à la littérature, est-ce que vous pouvez essayer de nous brosser un peu une espèce de portrait de l'évolution du vampire depuis, finalement, la tradition orale telle qu'il était porté dans la légende populaire, pour finalement voir les différentes facettes facette qu'on lui a donnée dans la littérature.
Alors, comme l'a dit Fabien, depuis que l'homme existe pratiquement, son imaginaire a été peuplé de... J'avais des ennuis avec le micro, mais là je pense que c'est bon. Son univers a été peuplé de créatures nocturnes qui venaient lui sucer le sang. Donc on peut penser que dès l'homme des cavernes, dès l'époque où l'homme ne s'exprimait pas encore par écrit, eh bien, on croyait non pas aux vampires, mais à des êtres surnaturels susceptibles de sucer le sang. Et puis ça s'est codifié peu à peu dans les différentes civilisations. Ces êtres ont été considérés comme des démons ou au contraire comme des divinités. Hein. Alors Lilith, dont on parlait tout à l'heure, en est un exemple. Les Empuses, les Lamies de la mythologie gréco-latine. En revanche, le vampire tel que celui qui nous intéresse aujourd'hui, hein, celui qu'on voit à l'écran, celui qu'on voit dans les romans, est beaucoup plus récent que ça, puisque ça remonte à peu près au Xe siècle. Hein, c'est au Xe siècle, en Europe occidentale, aussi curieux que ça puisse paraître, qu'ont commencé les premières histoires autour de spectres qui sortaient de leur tombe. On appelait ça des revenants encore, parce qu'ils étaient comme des fantômes, mais ils avaient un corps absolument palpable. Ils sortaient de leur tombe et, en général, ils allaient tourmenter leurs proches, leurs amis, les membres de leur famille, et parfois, ils provoquaient leur mort. Alors, on n'avait pas de terme pour ces êtres bizarres, et dans les chroniques latines, on les appelait, lorsqu'ils ont commencé à sucer le sang, on les appelait des sanguisugae, c'est-à-dire des sangsues. Et aussi curieusement que ça puisse paraître, le mot vampire n'est apparu qu'au XVIIIe siècle, parce que chaque pays avait différents termes. Hein, par exemple, pour les Grecs, c'était les broucolaques, pour les Roumains, c'était les moroi, il y avait différents vocables, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, que brusquement, on a trouvé un terme commun, et c'est le terme vampire, qui est un terme d'origine slave. Hein. C'est une déformation d'un mot russe, le mot oupir, qui signifiait précisément les morts vivants. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, assez curieusement, les premières manifestations de vampirisme ont été en Europe occidentale, vers le 10e, 11e, 12e siècle, et puis après, elles ont complètement disparu. Complètement disparu. Il n'y a pas de trace, si vous voulez, dans la tradition légendaire française, par exemple, de vampirisme, alors que le loup-garou a été présent dans toutes les époques. Hein. Mais le vampire, ça a été vraiment oublié. Alors, quelle en est la raison? Moi, je me suis interrogé sur ce phénomène. Je me suis dit, est-ce que ça pouvait être l'Inquisition qui interdisait qu'on puisse colporter des superstitions? Parce que là, c'était dangereux, hein, on risquait de passer au bûcher. Hein. Donc, c'est peut-être l'Inquisition qui a fait que cette croyance a quasiment disparu de pays comme la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Et elle réapparaît au XIIIe siècle dans les pays de langue allemande. Puis peu à peu, la croyance s'étend vers l'Est. Et ce sont les pays slaves qui sont, si j'ose dire, contaminés à leur tour. Les broucolaques de la Grèce, qui étaient des personnages plutôt sympathiques ou tout au moins inoffensifs, deviennent à leur tour des vampires. Et c'est ainsi que toute l'Europe centrale et orientale est finalement contaminée par cette croyance. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, précisément siècle des Lumières, que l'Occident commence à s'intéresser à ce phénomène. Et ça, pourquoi? Parce que, en particulier en Serbie, il y a eu un certain nombre de cas de vampirisme. Hein, dans un village, les gens mouraient brusquement. On en cherchait l'explication, et ça ne pouvait être qu'un vampire. Et l'empereur d'Autriche a eu l'idée d'envoyer des médecins, des hommes de science pour enquêter là-dessus. Il y a eu des rapports qui ont été écrits en latin. Ces rapports sont passés en Europe occidentale. Et c'est ainsi qu'au XVIIIe siècle, brusquement, on ne parlait plus que de vampires dans les universités, dans les colloques savants, etc. Et il a fallu même que le pape publie une bulle pour affirmer que les vampires n'existaient pas. Donc ça prouve que ça avait pris vraiment une dimension extraordinaire. En revanche, le vampire n'est rentré que tardivement dans la littérature d'imagination, puisque c'est à la fin du XIXe siècle qu'on voit les premiers poèmes. C'est d'abord par le biais de la poésie que le vampire est entré dans la littérature.
D'accord. Alors, on reviendra sur le vampire dans la littérature un petit peu plus tard, mais puisqu'on est sur la littérature, je voulais revenir un petit peu sur le roman de Fabien Clavel. Ce roman, il a une forme particulière dans sa narration.
Oui, bah là aussi, c'était pour changer un peu, parce que changer à la fois de style, changer d'univers et de mode narratif. Donc le roman le plus célèbre sur la littérature vampirique, c'est quand même Dracula, qui utilise. Moi, je l'ai pas lu. Hein, je vous l'avoue tout de suite, hein, comme ça, c'est fait. Qui utilise, je le sais, parce qu'on me l'a dit, qui utilise des lettres en fait, hein, et donc qui utilise le genre épistolaire. Et puis l'autre roman, quand même, qui marque pour moi un jalon dans la littérature vampirique, c'est Entretien avec un vampire, où là aussi, on donne la parole directement au vampire. Donc, moi, j'ai gardé le point de vue unique, et c'est une longue lettre, parce que je voulais éviter le côté journal, parce que c'est un peu cucu, le journal, enfin, ça me plaisait pas trop, et du coup, j'ai gardé l'idée de la longue lettre. C'est une longue lettre que l'héroïne envoie à sa sœur, et donc, comme elle est très très longue, elle est obligée de rajouter des morceaux à chaque fois, et donc ça tient compte de son expérience. Donc finalement, c'est proche du journal, mais en même temps, c'est une lettre, et du coup, ça me permettait de faire qu'elle, au lieu de s'adresser à un journal, donc cher journal, blablabla, ça lui permet de s'adresser directement à sa sœur. Du coup, ça donne une idée de double voix. Et ça permet aussi de mettre le lecteur dedans, parce que ça construit un dialogue qui, j'espère, n'est pas trop artificiel. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est vrai qu'il y a des petits souvenirs quand même de polyphonie, c'est qu'il y a deux autres éléments qui interviennent. Donc il y a cette longue lettre, hein, et qui est entrecoupée d'extraits. Alors c'est un blog. Il y a le blog de Cerise. Cerise, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire moi-même tout seul, et qui est l'incarnation de la peste stupide. Donc c'est une jeune fille qui est très très bien habillée, et dont le goût s'arrête aux vêtements, à l'apparence, qui a trop la classe, mais c'est tout. Et qui est absolument débile, quoi. Et donc c'était marrant de marquer d'un côté, donc Léa, mon héroïne, c'est plutôt une élève intello, parce que souvent on met des élèves qui ont des problèmes scolaires et tout, et puis là aussi j'en avais marre, donc j'ai dit je vais mettre une intello, une première de la classe, qui a ses problèmes aussi, hein, c'est pas si facile que ça, parce que par exemple un conseil de classe, voyez, alors machin, ah ouais, il pose problème, donc on passe un quart d'heure dessus, comment on va l'orienter et tout, machin, qui a 19 de moyenne partout, très très bien, hop, 2 secondes, c'est réglé, mais c'est normal. C'est d'ailleurs la remarque d'un élève qui m'avait fait penser à ça, parce que une élève qui était revenue d'un conseil de classe et qui disait ok, super, moi je me défonce la paillasse, et puis on parle de moi pendant 2 secondes, alors que celui qui fout rien, qui refuse d'apprendre, qui pose problème, on passe des heures dessus. C'est un petit peu déséquilibré. Donc elle est effectivement très intello, donc elle va se poser des questions, elle va faire des références littéraires, parler de ses lectures, etc. Et l'autre à côté, évidemment, elle parle de trucs complètement vains et superficiels, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Ça, c'est le plaisir, donc j'ai rajouté des fautes d'orthographe. J'en avais pas mis beaucoup au début, et en retravaillant le texte avec l'éditeur, il a dit « mais vas-y à fond ». Donc j'en ai rajouté un paquet. Donc ça m'amuse beaucoup, parce que vraiment elle est débile, et voilà, elle m'amuse. Et l'autre élément, donc évidemment, ça permet, vous avez un événement raconté par Léa, l'héroïne, qui va avoir son propre point de vue, et puis on le voit réapparaître dans le journal de Cerise sous une forme complètement différente. Et puis le troisième élément, en fait, c'est qu'on a des rapports qui sont faits par un vampire qui est un peu envoyé en éclaireur pour la conquête du monde. Et ce vampire donc fait des rapports, on ignore qui c'est au départ, on le comprendra à la fin, sauf si on est malin, on comprend plus vite. Et lui, donc, ce qui m'intéressait surtout au début, c'était qu'il a un point de vue sur les humains. Lui, comme il a disparu depuis très longtemps, en gros depuis 3 siècles, il redécouvre les humains avec une évolution historique, etc. Donc, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ces écrans partout? Vous imaginez, hein, 300 ans de progrès technologique, ça fait une sacrée surprise, quoi, en arrivant. Et ça lui permet donc aussi de juger les humains. Donc ça permet de renverser un petit peu la vision habituelle où on va désigner le vampire en disant tiens c'est une créature étrange. Là c'est le vampire qui dit tiens l'homme c'est une créature étrange, etc. Et il est en plus assez méprisant vis-à-vis de nous.
Alors justement, on a le bloc de Cerise, donc avec les fautes d'orthographe. On a la lettre de ce personnage principal. Est-ce que c'est difficile en tant qu'homme, de se glisser dans la tête d'une adolescente de 17 ans pour arriver à décrire ses pensées, ses émotions, son ressenti, son vécu ?
Bah non, pas trop.
Parce que je trouve que c'est assez réussi comme description. Donc
non, mais c'est ce que je dis toujours. Je dois avoir une part féminine bien développée parce que moi j'ai aucun problème et en plus très facilement j'ai des héroïnes qui arrivent dans mes histoires. Donc c'est plutôt ce qui m'intéresse et je les trouve en général justement plus intéressantes, plus riches que des héros masculins qui font je vais aller jouer au foot et ouais ok super. Et au niveau de pour l'introspection, disons que c'est un peu moins. Évidemment, je caricature, hein, mais moi, je trouve ça plus rigolo d'avoir une héroïne, et ça me vient très, très naturellement. Même si je me suis inspiré de mon expérience personnelle, hein, moi, j'étais pas premier de la classe, j'étais deuxième ou troisième, toujours, pas tout devant, toujours dangereux. J'étais pas à l'internat, etc. Moi, je m'en fichais qu'on passe 2 secondes sur mon cas, parce que de toute façon, je m'intéressais pas au conseil de classe, mais. Je me suis inspiré donc de mon expérience. D'ailleurs, le lycée qui est décrit dedans, c'est le lycée dans lequel je suis allé. J'ai changé le nom, bien sûr. C'était d'ailleurs amusant parce que des personnes qui l'ont lu, ça se passe à Compiègne. Là aussi, il y a un décentrement vis-à-vis du vampire qu'on peut mettre en Europe de l'Est ou maintenant dans le Bayou. On en parlait tout à l'heure ensemble. Donc moi, je l'ai mis dans l'Oise. Et comme je disais, effectivement, rendre la culture de la betterave sucrière un peu sexy, c'est un défi lourd à relever. Je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai plutôt parlé de la forêt quand même, hein, que des champs de betteraves. Et donc voilà, il y avait ce décentrement qui m'intéressait. Et donc une partie de son expérience, c'est la mienne. C'est moi qui suis allé au lycée à Compiègne, et j'ai fait exprès cette fois-ci d'utiliser vraiment du matériau autobiographique pour pouvoir rentrer plus facilement. Puisque les doutes qu'on peut avoir étaient partagés d'ailleurs par l'éditeur. Je lui dis, ça va être une héroïne et tout, qui écrit une lettre, elle raconte ce qui lui arrive. L'éditeur me dit, tu vas pouvoir faire 500 000 signes là-dessus. Je lui dis, bah ouais, enfin, moi j'étais pas inquiet, hein, ça me semblait naturel. Et après, bah, manifestement, il a été conquis.
D'accord. Alors justement, le vampire, héros de la littérature, Jean Marigny, comment est-ce que l'image du vampire a évolué dans la littérature ? Parce qu'il n'a pas toujours... Enfin, il y a certaines constantes qui sont apparues, qu'il a gardées, mais il y a aussi des variantes, avec notamment, à l'époque actuelle, les vampires à la Twilight, tout gentil, tout végétarien, etc.
Oui, alors en fait, c'est le fruit d'une très longue évolution, hein, parce que le vampire, comme je le disais récemment, c'est le fils du romantisme. Hein, c'est à l'époque romantique que le vampire est apparu, c'est-à-dire en Angleterre au tout début du XIXe siècle, et puis c'est venu un peu plus tard en France. Et je suppose que vous connaissez tous la genèse du tout premier récit en prose sur le vampire. C'est John William Polidori, qui était le secrétaire et médecin particulier de Byron, qui accompagnait son patron jusqu'à Genève. Ils n'ont pas assez arrêté de se chamailler, d'ailleurs, pendant le voyage, parce qu'ils se détestaient absolument cordialement. Hein, c'était vraiment... Et l'un des protagonistes, ils avaient rencontré les époux Shelley à Genève, Et il s'était lancé un défi, écrire un récit fantastique dans le plus petit délai possible, dans le plus court délai possible. Finalement, il n'y en a qu'une qui a réussi, c'est Mary Shelley qui a écrit Frankenstein. Elle était douée, et donc en une semaine, elle a bâclé Frankenstein. Alors que les autres ont remis copie blanche. Et Polidori, Byron voulait faire un roman sur le thème du vampire. Il en avait donné les grandes lignes à Polidori. Et Polidori, quand il est revenu en Angleterre, a réécrit l'histoire en changeant les noms des personnages, parce que ça aurait été quand même un peu gros. Et puis, le vampire est sorti, et ça a été vraiment le succès immédiat. Alors, le vampire de Polidori, c'est un noble, c'est un aristocrate, donc c'est ce récit qui ouvre la tradition selon laquelle les vampires sont des aristocrates. Hein. Vous avez le comte Dracula, vous avez la comtesse Carmilla, vous avez donc, ce sont toujours dans la littérature traditionnelle, des aristocrates. Autre convention créée par Polidori, le vampire ne s'attaque qu'aux personnes du sexe opposé, alors que, en fait, dans la légende, il pouvait s'attaquer à n'importe qui. Hein. Donc, les vampires masculins cherchent des victimes de sexe féminin et vice-versa. Alors, comme le vampire homme a une force physique redoutable, c'est par la force qu'il arrive à bout de ses victimes, alors que les femmes, elles, c'est par la séduction, par le charme et la séduction. Donc le vampire femme, c'est la femme fatale, hein, c'est le visage éternel de la femme fatale. Et tout ça, ça va changer vers l'époque victorienne, où les Anglais, comme vous le savez, de l'époque victorienne, sont très, très hantés par l'idée du mal. Donc, pour eux, le vampire, c'est le diable. Et Dracula présente toutes les caractéristiques d'une créature démoniaque. Donc, on quitte un petit peu le champ de la séduction pour arriver à l'idée du péché originel, de la damnation. Hein, donc le vampire entraîne ses victimes dans la damnation. Et cette conception-là va, en gros, se pérenniser jusqu'à 1976, où paraît le roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, où là, elle démythifie complètement l'idée du vampire en disant, voilà, les vampires sont des morts-vivants, certes des gens qui sucent le sang, mais en dehors de ça, ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aimer, ils sont capables de souffrir, ce sont des humains un peu différents des autres, mais ce sont quand même des humains. Et cette humanisation du vampire n'a fait que se poursuivre et se renforcer, jusqu'à ce qu'on arrive à Twilight. Hein. Et il y a un autre phénomène, c'est que la censure américaine était très très sévère pour les ouvrages destinés à l'enfance et à la jeunesse. Alors en France, vous savez qu'il y a une loi en 1945 qui a simplifié, qui a desserré un petit peu la censure. Alors qu'aux États-Unis, ça ne s'est fait qu'en 1970. Hein. On a commencé à sortir sur les écrans de télévision américain une émission qui s'appelait Sesame Street, la rue Sésame en quelque sorte, où on trouvait des personnages jusque-là interdits dans la littérature enfantine, des personnages de le monstre de Frankenstein, Dracula, etc. Et les éditeurs se sont rendus compte que le marché pour la jeunesse et pour l'enfance, c'était un marché extrêmement juteux. Donc, il y a eu, à partir de cette époque, une prolifération d'ouvrages destinés aux très jeunes enfants, puis plus tard aux adolescents. Et c'est ainsi que la Bitlit a hérité à la fois d'Anne Rice et de cette nouvelle tendance. C'est-à-dire qu'on visait surtout un public de jeunes, un public d'adolescents, de teenagers. Et on aboutit donc à l'extrême avec Twilight, puisqu'on a un vampire totalement gentil, qui, qui ne suce plus le sang des humains, qui part à la chasse la nuit pour chasser des animaux et leur prendre le sang, qui finit par marcher en plein jour, s'exposer aux rayons du soleil sans qu'il lui arrive le moindre problème, et qui est extrêmement gentil et toujours prêt à foncer à l'aide de la veuve et de l'orphelin, quoi, hein. Donc on est absolument aux antipodes de ce que Stoker avait voulu avec son vampire démoniaque. Mmh.
D'accord. Alors, justement, sur cette nouvelle forme de vampire, changer un peu les codes, Fabien Clavel, dans la nouvelle Libérame, dans l'anthologie Elfes et Assassins, il y a notamment ce personnage du Divum, l'elfe de sang, l'homo vampiris. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous parler un peu du contexte de la nouvelle ? Parce que là, on est pour le coup pas du tout dans le cadre habituel, puisqu'on est vraiment dans un cadre un peu post-apocalyptique.
Oui, alors c'est une genèse un petit peu compliquée, parce que, donc en gros, comme on l'a dit tout à l'heure, moi j'essaye d'explorer tout un tas de genres, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut avoir une sensation un peu d'éclatement de l'œuvre, si vous voulez. Voilà, un risque de fragmentation. Et du coup, je me suis aperçu, et en même temps j'ai éprouvé le besoin en même temps, de réunir un petit peu les différents ouvrages que je faisais. Et en fait, il y a deux ouvrages, deux romans que j'ai écrits. L'un qui s'appelle Homo Vampiris, et en gros qui est aussi une histoire de vampire, mais alors là avec un penchant beaucoup plus SF et anticipation, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des vampires qui ont une explication magique, ces vampires ont une explication scientifique, c'est-à-dire que le vampire est un malade qui est porteur d'un parasite qui le transforme, etc. Et tous les pouvoirs plus ou moins magiques ont des explications pseudo-scientifiques. Et le vampire à cette époque-là donc est chassé par des milices millénaristes parce qu'ils sont toujours l'incarnation du diable vis-à-vis de ces églises, et donc là ce qui m'intéressait moi c'était le renversement, et j'ai écrit un autre roman qui s'appelle donc Requiem pour le feu noir, qui est un roman donc de fantasy urbaine post-apocalyptique. Je vous promets que j'ai pas fait ça en mettant des étiquettes dans un chapeau, en secouant et en regardant ce qui allait sortir. J'avais réfléchi quand même à mon truc. Et en gros, l'idée, c'est que donc le monde est détruit, il reste des ruines urbaines vagues, dans lesquelles évoluent toutes les créatures magiques. Et les créatures magiques sont bien embêtées, donc des elfes, des nains, des gobelins, etc. Sont bien embêtées parce que l'homme a disparu. Et elles se sentent vraiment orphelines, c'est-à-dire que c'est pour elles c'est l'équivalent de Dieu est mort. Et donc beaucoup de créatures se mettent à rechercher ce qu'ils appellent les divums, c'est-à-dire l'homme divin. Et on apprend dans ce roman en fait que l'homme a plus ou moins disparu, il est parti parce qu'il a découvert un secret. Et en gros, il a trouvé le secret de l'immortalité. Voilà. Et là-dedans, ils sont plus ou moins appelés des elfes de sang, ces divums. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et alors, quand il y a eu cet appel à texte pour l'anthologie du festival, donc Elfes et Assassins, j'ai tout de suite pensé à mon elfe noir. Et je me suis dit que c'était l'occasion de réunir ces deux univers, sachant qu'il y en a un qui se passe dans les années 2050, pour Homo Vampiris, et l'autre qui se passe dans très très longtemps. La planète est dévastée, il y a un désert rouge partout, la mer est devenue presque gélatineuse parce que c'est rempli d'eau lourde, etc. C'est pas beau. Et voilà. Et donc cette nouvelle, c'était vraiment l'occasion de réunir les deux, c'est-à-dire que de dire que les elfes de sang qui apparaissent dans Requiem pour Elfes Noirs sont en fait les Homo Vampiris, donc je raconte la jeunesse dans Homo Vampiris, d'où le titre.
Et effectivement, et c'est extrêmement intéressant de voir que finalement ce personnage, puisque c'est lui le narrateur, qui raconte et qui parle à tous les autres, finalement on le découvre sans jamais qu'il soit vraiment personnage de la nouvelle, et du coup on se pose plein de questions. Parce que en plus, c'est vraiment à la fin qu'on découvre que c'est lui le divum, l'elfe de sang, l'homo vampiris. Et,
tu viens de griller la fin de la nouvelle, donc là, quand même. C'est pas grave.
Donc, on se pose plein de questions. Donc, à quoi il ressemble ?
J'en ai aucune idée. Enfin, si, il faut lire Requiem pour Elfe Noir, en vente chez Mnemos, au prix de...
j'ai oublié. Voilà, mais non, à quoi il ressemble? En fait, l'idée de cette narration à la deuxième personne, où c'est lui qui raconte, déjà justement, c'était de pouvoir imaginer ce qu'on voulait. Et puis, ça permettait de renverser encore une fois la perspective. C'est-à-dire que normalement, c'est l'humain que nous sommes qui va s'adresser à une créature fantastique, qui est l'incarnation un peu de l'autre, celui qui est semblable mais différent, etc. Et là, c'est l'inverse. Enfin non, c'est pas complètement l'inverse. Je sais plus, je me suis perdu dans mes dans mes trucs, mais c'est fait exprès en fait. C'est fait pour qu'on se perde de toute façon. J'ai réussi à me perdre tout seul, mais c'est effectivement des renversements de perspective pour qu'on sache plus exactement lequel finalement est humain, lequel est magique. Voilà, sachant que sa forme, elle apparaît de façon quand même assez précise dans quand même Requiem pour Elfe Noir. Mais il a une tête d'humain. Hein. Il a une tête d'humain, mais il est immortel.
Parce que mon but, c'était justement de faire parler des romans. Hein, donc,
D'accord, oui.
je ne fais pas partie de ces animateurs qui récitent toute leur science et qui disent à l'auteur, alors vous avez écrit ça, vous avez dit ci, et là l'auteur dit, bah oui.
Bah non, c'était pour t'embêter.
Voilà. Non. Mais on aime bien m'embêter. Jean Marigny, donc, puisqu'on est dans une vision beaucoup plus moderne du vampire, évidemment, si on regarde un peu les moyens modernes de diffusion, on a maintenant l'image, la télévision, le cinéma, les séries. Alors évidemment, dans les séries, tout le monde connaît Buffy. On a parlé de Twilight en tant que roman qui a été transposé à l'écran. Est-ce que la figure du vampire a encore évolué? Et peut-être que beaucoup de gens rapprochent l'apparition du courant beatlit, enfin beatlit d'ailleurs qui est un terme français parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout le terme qu'ils utilisent, on pourra l'expliquer. Beaucoup de gens pensent que cette littérature-là est apparue après Buffy, et en tout cas parce que l'image avait donné une certaine vision du vampire.
Moi je pense que l'origine de la bitlite, parce qu'en fait, à mon sens, la caractéristique de ce qu'on appelle la bitlite, et ça je l'ai dit aussi il n'y a pas très longtemps, c'est que ce sont des romans écrit majoritairement par des femmes, dont les personnages principaux sont des femmes, et qui ont une orientation nettement féministe. C'est la défense de la femme vis-à-vis des traditions, enfin des positions traditionnelles. Et je crois que peut-être la première série, même avant Buffy, qui a lancé ce courant, c'est la série des aventures d'Anita Blake, la chasseuse de vampires, par Laurel K. Hamilton. Hein, et ça précède Buffy. Et ensuite, évidemment, il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont brodé sur ce thème-là. Et donc, c'est ainsi que cette littérature s'est développée. Tout à l'heure, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que disait Fabien. Lorsqu'il a dit que Homo Vampiris, c'était dans la sphère de la science-fiction. Tout à l'heure, en parlant de l'évolution du vampire, j'ai fait une grave omission, j'ai oublié un roman que tout le monde doit lire, à mon avis. C'est Je suis une légende de Richard Matheson, qui est sorti en 1954, c'est-à-dire bien avant les romans d'Anne Rice, hein, et qui donne une vision totalement différente du vampire. C'est-à-dire que le vampire est toujours méchant, bien sûr, mais on l'explique de façon totalement rationnelle, puisque dans le roman de Richard Matheson, on imagine que la Terre a été ravagée par une guerre atomique, et que pratiquement les 4/5 de l'humanité ont disparu, et les survivants, à cause des retombées radioactives, sont devenus des vampires. Et il y en a un seul être au monde qui a échappé à cette épidémie. Alors là, ça peut paraître un peu cocasse, parce qu'il a été vacciné. Jadis, il a été mordu par une chauve-souris, et il a été totalement vacciné contre le bacille vampiricus. Le bacillus vampiricus qui est la cause de cette maladie. Et il y a une inversion totale des rôles, c'est-à-dire que c'est l'homme, l'homo sapiens, comme vous et moi, qui devient la légende, et c'est le vampire qui devient la norme. Et ça, c'est absolument fantastique, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et ça fait partie aussi de l'étape de cette évolution du vampire, qui n'est plus une créature venue de l'enfer, mais qui est véritablement...
Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, on constate que les... Justement, la nouvelle Libéramée est extrêmement intéressante à cet égard, et nous, elle nous a beaucoup intéressés dans l'anthologie Elfes et Assassins, puisque avec Lionel, on a une vision de la fantasy, ou en tout cas des genres un peu plus mixés, et avec le... On se rend compte que les auteurs maintenant mélangent de plus en plus de choses, qu'ils ont envie d'aller davantage vers ce que notre ami, il était en table ronde avec nous hier, appelle la transfiction, Francis Berthelot, hein, avec effectivement des genres littéraires qui s'interpénètrent. Est-ce que finalement le vampire commence à pénétrer dans la science-fiction, va aller dans la fantasy? Est-ce que c'est ça le vampire de demain?
En particulier, moi, je voudrais parler d'un thème qui est très très porteur à l'heure actuelle. Et c'est une conséquence de ce que nous vivons, nous, dans notre vie quotidienne, c'est le thème des épidémies. C'est le sida, l'apparition du sida qui, en premier, a donné la base de cette nouvelle thématique. Et c'est aussi le virus Ebola et bien d'autres catastrophes du même genre. Si bien que on a de plus en plus de vampires maintenant qui sont porteurs d'un virus, comme le personnage de Fabien, là, qui sont porteurs d'un virus. Ça, on l'explique de façon tout à fait rationnelle. Et le seul moyen de les vaincre, ce n'est plus le pieu ni la gousse d'ail, mais c'est un vaccin qu'il faut trouver, etc. Donc je pense que c'est une des grandes peurs du XXIe siècle. Hein. On a peur de... Alors on a bien d'autres peurs, vous allez me dire. Hein. On a peur que la Terre devienne désertique parce qu'on a trop puisé ses ressources. Mais la peur de l'épidémie, c'est vraiment dans notre subconscient. Et je pense que là, ça peut expliquer cette rationalisation actuel du thème du vampire.
Mais finalement, en y repensant, est-ce que le vampire n'a pas été porteur de toutes les peurs humaines? Puisque à l'époque, par exemple, de la vampire séductrice, etc., c'était un peu la peur de l'acte sexuel, c'était la peur de par rapport à la bonne morale. Est-ce que finalement, le vampire n'est pas porteur de tout ce qu'on craint?
Alors moi, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Je dis que la thématique du vampire, c'est une auberge espagnole. Parce que chacun peut y apporter ce qu'il veut. Et chaque époque, effectivement, y apporter ce qu'elle a voulu. Hein. On parlait tout à l'heure de l'époque romantique. L'époque romantique, c'est l'amour fatal. Bon, voilà, le vampire. Le roman de Matheson, c'est la peur de la guerre froide, de la guerre atomique. Bon, donc chaque génération, chaque époque a apporté sa pierre à cet édifice. Et ce qui fait que le vampire est indémodable. Indémodable parce qu'on le retrouve à toutes les époques. Hein, et on peut imaginer qu'au XXIe siècle, il aura de nouvelles formes. Parce qu'il y aura de nouveaux problèmes qui auront surgi. C'est pour ça que, personnellement, je ne suis pas très objectif parce que, évidemment, j'aime beaucoup les vampires, mais personnellement, je pense que le vampire est un personnage beaucoup plus porteur de thèmes que le loup-garou, que le zombie, que le monstre de Frankenstein, etc. Quoi.
D'accord. Fabien Clavel, d'autres histoires de vampires en perspective?
Oh non, pas tout de suite, ça va là pour l'instant. Moi je suis dans les zombies maintenant en ce moment.
Très bien.
Et voilà. Donc, mais justement, je pense que ce que disait Jean me fait penser que justement là, il y a eu un gros éveil autour des vampires. Maintenant, c'est plutôt le zombie qui a l'air d'en bénéficier. Et pour me documenter, moi, pour mon roman de zombie, j'en ai regardé beaucoup de films. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un glissement de la figure du vampire vers le zombie, alors que le vampire au départ, créature solitaire. Il y a une massification avec toutes ces histoires de virus, etc. C'est pour ça qu'ils se mettent à courir.
dans certains films. Et d'ailleurs, il y a certains films, on n'arrive plus vraiment à décider si ce sont des zombies ou des vampires. Et donc le zombie, je pense, bénéficie d'une partie de l'éclat du vampire. Et je pense que c'est un peu pareil d'ailleurs, effectivement, avec les loups-garous. Par exemple, dans Buffy, le loup-garou qui va plutôt exprimer, pour le dire très vite, la part animale de l'être humain. Si on regarde Buffy, par exemple, le vampire est aussi vraiment, il y a un côté extrêmement animal. Quand il se transforme, il pousse des espèces de cris de bête, etc. Donc effectivement, le vampire, c'est une créature qui est très très plastique et qui peut tout prendre. Mais moi, j'aime bien changer quand même de temps en temps. Donc, un peu de zombie.
Eh bien, peut-être que le zombie sera une thématique forte du festival l'année prochaine. Allons savoir. Et peut-être qu'il nous donnera lieu à une autre conférence sur le thème du zombie. Donc, le temps qui nous était imparti est venu à son terme. Donc, je remercie Jean Marigny et Fabien Clavel pour avoir répondu à mes questions. Je remercie le public pour son attention. Je vous invite à aller les consulter à la Bulle du Livre et discuter avec eux si vous en avez envie, acheter leurs ouvrages qui sont passionnants. Merci beaucoup.
Fabien, merci.
Fabien et moi, nous sommes dans le même secteur. Donc,
oui, juste à côté.
C'est facile, voilà, à trouver.
Merci. Ça a été ?
Ouais, ça a été. Vous êtes une très bonne...